Première position, s'il vous plaît.
OK. Alors, on va se mettre en place, on va le faire. Moteur, son.
Un sur un, troisième.
Action.
Mon nom est Serge Beauchemin. Je travaillais plutôt comme preneur de son, puisque j'ai pris ma retraite. Donc, preneur de son en cinéma. C'est une spécialité bien particulière parce que c'est une prise de son qui est destinée à accompagner des images. Donc, c'est pas comme une prise de son de la radio ou de disque.
On va le dire, là, voyez-vous, si vous voulez, ben, il y a garde la famille des gars. Vous prenez nous autres, si vous voulez, on a élevé 16 enfants.
C'est vrai?
Mais oui.
C'est
arrivé. On a le premier, qui est Léopold, que vous connaissez peut-être.
Oui.
Que vous me connaissez,
oui.
Vous êtes chez lui.
Oui.
Et puis la dernière, c'est Saint-Grégoire, elle a 4 enfants. On a 72 petits-enfants.
Écoutez, vous êtes bien à la hauteur des premiers qui ont été là.
Hein? On a 7 arrière petits-enfants.
Hein?
Ça fait que ça commence. Si des tremblés, vous faites comme nous autres.
Ça explique bien ça.
Ça peut plus le Canada.
Ça explique bien.
Au bout de ce grand bout de terre, de peine et de misère, dis-moi...
C'est drôle, j'étais destiné à être professeur. J'ai fait mon cours d'école normale et j'ai commencé à enseigner. Et pendant que j'étais à l'école normale, on avait un ciné-club et on faisait venir des cinéastes pour nous montrer leurs films. Et j'avais vu, entre autres, les films de Pierre Perrault. Pierre Perrault était venu, Michel Brault. Et j'avais été ravi par les films de Pierre Perrault et Michel Brault, dont les films tournés à l'île aux Coudes. Et puis, je me suis dit qu'un jour, ça allait être mon métier. Je voulais devenir preneur de son pour ce type de film-là. Et le hasard, faisant bien les choses... 2 ans après, je me suis retrouvé à l'île aux Coudes avec Pierre Perrault et Bernard Gosselin à enregistrer. Alors, il faut dire qu'entre-temps, j'avais fait un peu mes classes dans l'industrie privée. J'avais travaillé sur des longs-métrages pour Coopératio, qui était un rassemblement de gens de cinéma et on travaillait évidemment gratuitement. C'est là que j'ai appris mon métier. C'est dans les années 60, 65 à peu près.
Pourtant qu'on m'a...
Mais il y avait un monsieur Tremblay, Alexis.
Oui,
Tremblay,
monsieur Alexis Tremblay, oui, monsieur.
Il n'est pas à la maison?
Non, pas dans le moment.
Est-ce qu'il est loin?
Il est parti pour aller aux fraises avec madame Tremblay.
Ramasse les fraises en point! Qu'est-ce que je fais? Ils sont très bonnes?
Oui, mon Dieu, très bien, vous?
Bon, comme vous voyez.
Vous rajeunissez?
Arrête donc. 79!
Attendez, monsieur.
Non, je veux pas de tout, il faut venir me croiser les pieds.
Vous n'aurez encore un autre, Jean Chouinot?
Ce qui m'intéresserait, ça serait d'avoir un Tremblay, là, qui irait en France, et qui reviendrait me raconter un peu qu'est-ce qu'il a vu, là.
Oh, aller en France?
Ça vous dit quelque chose, hein?
C'est pas mal dur. Que t'en penses, Marie?
J'ai appris sur le tas. Quoique, à l'école normale, on avait remis des travaux faits sur bande magnétique, des travaux qui étaient censés être faits sur papier. C'était des expériences qu'on faisait avec des enfants. Et on avait mis les enfants en présence d'un micro et on avait fait un montage de ça. J'avais un peu pratiqué mon métier à ce moment-là.
Vous pouvez avoir la possibilité de le surveiller et de le suivre.
Et vous savez que ça n'arrive pas tous les jours de nous offrir une chose semblable.
Oui.
Ça fait que donc, là, ça demande réflexion. Puis ensuite, ça demande, si vous voulez, on va dire ça, à consulter nos enfants.
Oui,
est-ce que c'est un voyage qui serait long? Je pense pas. Ça pourrait être une quinzaine de jours.
Disons que pour un long métrage, d'abord, je lis le scénario et je prends des notes pendant le scénario. Pendant que je lis, j'entends des sons, j'entends des dialogues, j'imagine des ambiances et je les suggère au réalisateur pendant le tournage et je fais ces ambiances-là et quand je peux pas le faire pendant le tournage, je les fais après. C'est exactement la même chose pour les séries télévisées sur lesquelles on travaille. On visite également les endroits de tournage. Toute l'équipe fait une visite sur ces endroits de tournage-là, à savoir si, si les endroits ont été bien choisis. Et il est arrivé à quelques occasions que, pour le son, on ait changé de lieu de tournage parce que le son était absolument affreux. Et à ce moment-là, le producteur peut dire « Non, non, on demeure à cet endroit-là, on fait de la post-synchronisation. » À ce moment-là, le son qu'on réalise sur le tournage devient ce qu'on appelle un son témoin. Et après ça, il y a une post-synchronisation qui est faite en studio. Mais pour les films documentaires, c'est une autre chose. Pour un film documentaire, il faut posséder sa technique presque sur le bout de ses doigts. Il faut que la pratique du métier devienne un automatisme. Il faut pas penser à ses instruments, il faut pas les regarder, il faut pas arrêter ce que quelqu'un nous dit pendant le tournage parce qu'on a un problème technique. Il faut que ce soit... C'est plus complexe un peu un film documentaire, quoique ça semble plus simple.
Installés, on ne peut pas faire autrement qu'être navigateur. On est venu au monde dans un canot. Moi, je me souviens, étant jeune, là, mon père a toujours eu des canots. Puis j'embarquais dans le canot à l'eau sur les bras, après la classe, 7-8 ans, avec les avirons. Puis le canot attaché, je naviguais comme si j'arrêtais en pleine mer. Là. Puis j'étais là tant que la nuit, que la mer venait pas me chercher. Ça fait comment, voulez-vous, ne pas devenir navigateur avec des pareils, un élevage de la pareille sorte?
Il y a des réalisateurs qui sont pas très sonores. Pour eux, la prise de son, c'est un peu comme accessoire, ça vient, c'est évident, on va tourner avec une caméra, c'est sûr que le son va être là, et ils prennent ça pour acquis. À ce moment-là, c'est un peu difficile de pratiquer notre métier parce qu'on est un peu, délaissé par la réalisation, alors qu'il y a d'autres réalisateurs pour qui le son est vraiment très important. Et pour des réalisateurs pour qui une image... Sans son, ça manque de signification, ça manque de profondeur. D'ailleurs, quand on voit, quand on a des visionnements des rushs, c'est-à-dire les rushs, c'est-à-dire le matériel brut qu'on a tourné, si ce matériel-là n'a pas de son, ça devient vite ennuyant. Alors que quand on voit ce matériel-là avec le son, on sent comme une profondeur, une véracité dans l'image beaucoup plus grande. Alors, voilà, il y a certains réalisateurs avec qui on aime beaucoup travailler. D'autres, c'est plus difficile.
On va avoir des pas à dire, faut aller à côté dedans. Ils vont me l'éclairer par la lampe, là. T'es bien, tout le monde, les gars, t'es bien.
C'est un peu le son qui détermine le cadre de l'image. Si quelqu'un parle et il est dans un milieu assez bruyant, le micro doit se rapprocher de cette personne-là pour entendre sa voix, pour entendre ce qu'il dit, si c'était très important. Donc, la caméra doit faire son cadre. Si on veut pas voir le micro dans le cadre, il doit faire son cadre selon le micro, le placement du micro. Hein.
Lève tranquillement, Yvan. Tiens bien un peu, Carice. Bon, viens. Tranquillement. Laisse ça bien tranquillement.
On travaille avec des appareils portatifs. Moi, j'ai pris ma retraite il y a 2 ans déjà, mais les appareils évoluent beaucoup. À l'époque, on travaillait, mon appareil principal était le Nagra. Le Nagra est un appareil quart de pouce autonome, c'est-à-dire qui fonctionne à batterie, à ruban évidemment. Et ça a apparu sur le marché dans les années, au début des années 60. Et cet appareil-là a fait les beaux jours du cinéma. D'ailleurs, ça a révolutionné pas mal la prise de son dans le cinéma. La prise de son se faisait avec des camions. C'était très complexe. Le son se faisait de façon sur du film optique. Mais là, depuis le début des années 60, les équipes de son ont beaucoup diminué en volume. Et le Nagra existe toujours, mais maintenant, ce n'est plus le ruban quart de pouce, c'est un Nagra numérique qui fonctionne sur des mémoires solides. Et donc, ça a beaucoup, beaucoup changé la prise de son. C'est-à-dire que le métier de la prise de son est le même, mais l'appareil avec lequel on travaille n'est plus, ne sont plus les mêmes. Évidemment, ça demande pour les gens qui passent d'un appareil, d'un type d'un appareil à l'autre, il faut vraiment que ces gens-là prennent l'habitude de l'appareil. C'est un changement dans la conservation des sons. Autrefois, les sons étaient conservés sur ruban, sur cassette. Cassette numérique ou cassette analogue. Mais maintenant, les sons sont conservés sur des disques durs, sont conservés sur des mémoires solides ou sur des CD ou sur des DVD. On peut conserver aujourd'hui sur un petit disque dur externe. On peut conserver le son de tout un film, de tout un long métrage, c'est-à-dire, disons, 2 mois de tournage peut être conservé sur un petit disque dur, alors qu'autrefois, la quantité de rubans pour conserver tous ces sons-là était assez astronomique. C'était volumineux, c'était dans des boîtes et des caisses.
Ben, je sais pas, mon cousin l'Acadie.
Ah, tu penses que le peuple acadien existe?
Le peuple acadien, franchement, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'on a parlé de peuple acadien, puis on a parlé de Québécois.
L'Acadie, colonie française pendant plus d'un siècle, est cédée en 1713 à l'Angleterre, qui déporte ses habitants.
Après avoir été déporté par ces maudits Anglais, on est revenu sur nos terres et on a tout recommencé.
La déportation, c'était un mot qui voulait dire quelque chose. C'était presque comme le déluge. Pour nous autres, les jeunes, je te parle lorsque j'avais 12-13 ans.
Pendant le tournage, sur les longs métrages, ben, ça dépend des techniques. Il y a des preneurs de son qui vont se placer directement sur le plateau, à côté de la caméra, être le plus proche possible de ce qui se passe. Et il y en a d'autres qui vont se mettre très loin, dans leur auto, mais ou dans leur camion à l'extérieur, pour pas être dans le mouvement. Moi, j'essaie d'être un peu entre les deux, un peu dans l'approche banlieue, disons, des tournages. Et je veux pas être sur les plateaux de tournage. C'est pas que j'aime pas ça. C'est qu'il y a tellement de circulation. Il y a beaucoup de techniciens qui y travaillent, des machinaux, des électros. Et ils ont constamment à travailler entre les plans. Donc, pour pas me faire déranger dans mon arrangement, parce qu'on a des tables de son avec un mixeur, enregistreur, des petits micros, les perches et tout ça. Alors, s'il faut se faire déranger constamment, si on nous demande de changer de place tous les 5 minutes parce qu'on est dans les jambes, c'est pas très, très agréable. Alors, j'essaie d'être assez proche du plateau de tournage tout en n'étant pas dans les jambes des gens. En général, la prise de son qu'on fait, c'est mono. C'est une prise de son monophonique. Si on travaille avec un appareil multipiste, chaque piste est comme individuelle. Chaque piste est destinée à un micro radio ou un micro de la perche. Occasionnellement, on fait des prises de son stéréo avec un micro stéréophonique. Soit stéréo, la vraie stéréo ou en stéréo MS, qui est une façon de faire de la stéréophonie. Mais en général, moi, quand je mets mon casque d'écoute, je me fais une espèce de mix de tout le son. Si on travaille avec, disons, 3 comédiens et une perche, je me fais comme un son mono. Une écoute mono de tout ce son-là, mais chaque micro est destiné à une piste sonore. Mais je me fais comme une balance dans ma tête en me disant que c'est comme ça que ça devrait sonner, c'est comme ça que ça devrait se faire. Mais ils peuvent toujours refaire la balance des sons au mixage. Des
coupé.
3.
7.
En fait, la prise de son, c'est pas un métier uniquement technique. C'est un métier qui nous oblige à prévoir le coup, à prévoir les coups, à doser les sons, surtout sur les films fiction et sur les films documentaires. Souvent, c'est le micro qui détermine si on tourne en présence de trois personnes, par exemple, qui interagissent, discutent, etc. Souvent, c'est le micro qui détermine la personne qui va parler. Quand on place un micro en haut de quelqu'un, nécessairement, il sait que c'est à lui que revient la parole. Et si le micro se déplace vers l'autre personne qui est à côté, la première personne, voyant que le micro est plus là, va arrêter de parler, c'est l'autre qui va... Donc, le micro, souvent, va déterminer un peu la parole. Il faut avoir une bonne intuition de savoir qui va parler. Tu sais, il ne faut pas regarder uniquement la personne qui parle, il faut regarder les autres personnes également pour savoir si quelqu'un a envie d'intervenir, il faut diriger le micro immédiatement sur lui avant qu'il prenne la parole. Donc, il y a une forme d'intuition qu'il faut avoir. Il faut avoir un certain goût aussi, il faut mesurer... Quand on fait de l'enregistrement de la musique, occasionnellement, on a l'occasion de faire des enregistrements musicaux sur les plateaux de tournage avec des comédiens qui parlent en même temps. Donc, il faut savoir doser la musique et la parole parce qu'il n'y a pas de... C'est comme un mixage direct. Il n'y a pas de possibilité de se reprendre. Ça prend une bonne dose d'intuition.
Allez-vous! Faudrait-tu savoir ce qui se passe ici?
Il se passe qu'on trouve que le simple bon sang devrait permettre à Clermont-Boudreau de sortir de prison puisque son père est mort. Un minimum de décence, ça? Tout ça. Non? Écoutez-vous, là! C'est un minimum humain?
Ça, c'est pas à moi de décider ça. C'est au ministère de la Justice que ça regarde. Nous autres, on reçoit des ordres et puis on les exécute.
J'aurais jamais cru qu'on puisse faire ça à un homme. Je sais pas si vous avez déjà perdu votre père, vous. À part ça, qu'il n'y en a pas un qui a été accusé de quoi que ce soit parmi nous autres. Pourquoi est-ce qu'on nous garde ici, hein? Les droits fondamentaux, ça continue à exister. Bon, Yann?
Docteur Beauchemin, vous savez très...
Oui, laissez faire le docteur, occupez-vous donc clairement.
On reçoit des ordres, vous le savez très bien, pour les exécuter.
Des ordres? Des ordres de qui? Du ciel?
Tu vas voir à ça.
Une bonne prise de son, c'est quand on entend ce qui est dit. ça a l'air simpliste de dire ça, mais quand on regarde un film, et c'est toujours en rapport au cinéma. Moi, la prise de son, quand je parle, c'est toujours en rapport au cinéma, par rapport à l'image. Si le spectateur se demande une fraction de seconde, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Automatiquement, on vient de perdre quelques secondes dans la compréhension du texte, dans la compréhension du film. Ça fait que la personne se détache un peu. Une bonne prise de son, c'est celle qui amène à une compréhension immédiate et directe des dialogues, entre autres. Parce que moi, ma spécialité, c'est la prise de son des dialogues. Notre premier devoir, c'est de faire une bonne piste de dialogue. Et après ça, il faut combler en allant chercher des effets sonores ou des ambiances pour compléter le paquet qui va être remis au monteur son. C'est sûr que quand on fait une prise de son qui est destinée à un long métrage et qu'on sait que les budgets sont des gros budgets et que chaque journée de tournage équivaut à, disons, un montant de 50 000 $ tu sais. Il faut faire attention pour pas gaffer, pas faire de gaffe, pas faire d'erreur. C'est pour ça qu'on est deux dans une équipe de son, on se surveille. Quand on n'est pas sûr de notre coup, je fais réécouter la prise de son au perchiste parce qu'il y a une bonne écoute, il y a un jugement. Ça prend du jugement pour faire pratiquer ce métier-là.
C'est qui, cette femme-là? Je l'ai croisée à l'hôtel l'autre nuit. Tu la connais, toi?
Non. Elle était dans le bar quand j'ai fait des essais. J'ai dit que j'allais filmer. Elle a dit qu'elle partait, mais elle est restée.
Et vous collaborez, vous, avec le monteur sonore?
Le monteur sonore, oui, parce que... D'abord, on fournit au monteur sonore des listes de tous les sons qu'on a faits pour qu'il puisse les retrouver facilement. Et quelquefois, le monteur sonore communique avec nous pour nous demander si tel effet sonore existe ou telle ambiance existe. Si ça n'existe pas, il va nous demander si on pourrait pas aller le faire. Évidemment, il y a des questions de contrat là-dedans. C'est le producteur qui décide. Mm-hmm. Des fois, on demande également au monteur sonore de venir pendant le tournage du film. Pour qu'ils se rendent compte de notre réalité, parce que quand on fait du montage sonore, on est dans le film, on est dans un studio, on est dans une pièce où on n'entend que des sons, et les preneurs de sons sont fait reprocher de fournir des bandes de sons qui sont bruyantes. Comment ça se fait, vous n'avez pas le contrôle du plateau, tu sais. Puis là, à ce moment-là, on demande au monteur sonore de venir faire son tour sur le plateau pour qu'il se rende compte des fois que notre réalité n'est pas aussi simple que ça, que c'est pas aussi facile, que ça de demander un silence total sur le plateau. Le monteur sonore va souvent demander d'avoir du son un bout de 3 secondes après ou avant la séquence, sans effet sonore, rien, là, tu sais, juste pour, comme des ambiances pour pouvoir, pour lui permettre de faire des chevauchements entre les sons. Mais ça, souvent, c'est pas possible de le réaliser parce qu'il y a une équipe, parce que tout le monde est pressé, alors quand le monteur sonore vient sur le plateau pour se rendre compte de notre réalité, des fois il retourne dans son studio en disant « Mon Dieu, je suis bien dans mon studio, il pleut pas, ici on est bien, c'est tempéré, on n'est pas au froid, il vente pas, puis c'est pas bruyant.
» Est-ce que vous collaborez avec le mixeur?
Le mixeur, on va... tous les films, il y a un moment de vérité pour les preneurs de son. Puis ce moment de vérité-là, c'est quand on fait ce qu'on appelle un visionnement technique. Une fois que le film est fini de monter, une fois que le monteur a terminé le montage, à ce moment-là, le visionnement technique se fait dans la salle de mixage. Et là, on écoute vraiment les sons. On écoute vraiment la bande de sons à l'état pur pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les sons. Est-ce qu'on post-synchronise tel bout? Est-ce qu'on comprend tout ce qui se dit? Est-ce que le preneur de son est là, il assiste à ce visionnement-là? Et c'est à ce moment-là que le mixeur va se demander, mais où était donc le perchiste? On n'entend pas. On voit une personne parler et le son, où était le micro? Le micro n'est pas sur la personne qui parle. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, écoute, on dit au mixeur, mais écoute, regarde écoute sur la bande numéro 4, il y a un micro qui est là et tu n'as pas levé le potentiomètre du micro, tu vas l'entendre, la personne qui parle. Donc, on est là comme pour rectifier les choses et pour se faire dire aussi que notre son est extraordinaire.
Spread down the orange, shake down with smaller steak.
Sir,
Essaye donc l'autre bord en français, peut-être qu'on va comprendre un peu mieux.
Ah oui. Ah, bien. Instruction pour l'attente. Choisissez un endroit bien plat et sans verre brisé, ni pierre pointue, qui pourrait couper de la vie. Allez donc faire un tour dans le bois, vous nous dérangez, là. Votre temps d'étendre l'attente avec ses... Mets des piquettes, Paul.
Y a-t-il des sons que vous aimez particulièrement capter, enregistrer?
Les cloches d'église. C'est drôle à dire. Ça a été un peu comme un running gag sur les films que j'ai faits. Dès que j'entendais des cloches d'église, il fallait que tout s'arrête parce que j'enregistrais les cloches d'église. Il doit exister dans les sonothèques du Québec plusieurs cloches d'église qui ont été dont l'enregistrement a été réalisé par moi il y a plusieurs années. Donc c'est une panoplie de cloches d'église, de campagne, de ville. Alors c'est un peu une... Et le top que j'ai fait, ça a été quand on est allé enregistrer dans un clocher. Des immenses cloches dans la ville de Québec. Quelqu'un qui réparait des cloches. Et on est allé filmer ça. Ça, c'est vraiment le plus proche de la cloche que je me suis rapproché.